Bravo, bravo, bravo et bravo Daniel, et merci pour ce reportage sublime sur Bernard. Là, ça nous a mis une bouffée d'oxygène. C'est vrai que ça commençait à durer là, les réunions du parti, là, je ne savais plus où mettre mon esprit. Et ça y est, ça c'est reparti. De temps en temps, refais-nous en une comme ça, c'était vraiment super.
Eh bien, mon Daniel, tu peux en refaire des émissions comme ça, hein, parce qu'en fait, une vie, j'écoutais jusqu'à la fin, je me disais, mais qu'est-ce qu'il va y avoir? Alors, le happening, il sort avec une trisomique, mais il a une sexualité avec, donc franchement. Alors, tu disais, bon, mais si vous êtes historien, sociologue, vous le classez où? Ben, je le classe uniquement dans un seul camp, c'est celui des tocards. Et des tocards comme ça, tu peux en retrouver. Il y en a, et tu vois, ton émission n'est pas prête de manquer le sujet, là. Tu peux y aller, hein, tu peux continuer.
Salut Daniel, c'est Francisco des Hautes-Pyrénées. Eh bien moi, tu vois, le vieux salaud de Bernard, eh bien moi, il m'a touché. Et moi, j'aimerais bien qu'il y en ait beaucoup de vieux salauds comme ça, tu vois. Allez, salut Daniel, et c'est bien tes émissions, il n'y a pas à dire. Bye.
Bonjour Daniel, bonjour tout le monde, c'est Anne-Marie dans le Vaucluse. À propos de la votation citoyenne pour la Poste, qui aura lieu du 27 septembre au 3 octobre, donc on est très mobilisés dans le Vaucluse, il y a des tas de départements aussi. On veut absolument garder la Poste en tant que service public. On sait qu'une société anonyme publique, c'est impossible, on le voit à France Télécom où l'État ne possède plus que 27%. On sait que la Poste perdra ses missions de service public, on sait qu'il y aura de nombreux licenciements, on sait qu'il y aura de nombreuses fermetures de bureaux. On sait très bien que ça n'est pas en faisant passer la Poste en tant que société anonyme que l'État pourra mieux l'aider, comme il dit, et que si elle a besoin de 2,7 milliards, on en a donné 360 aux banques, on peut bien lui en donner un peu. Donc vraiment, il faut que tout le monde se mobilise dans cette semaine pour aller voter, pour dire qu'on veut garder la Poste service public. Il y aura des bureaux de vote improvisés partout, devant les bureaux de poste, devant les mairies, dans les marchés, etc. Donc on doit gagner la bataille contre la privatisation de la Poste.
Je viens faire part d'une expérience malheureuse vécue en tant que manager sur une plateforme téléphonique. Avant de venir dans ce service, j'ai aperçu toutes les facettes positives d'un recruteur qui allait devenir mon manager, ambiance positive dans l'ensemble du service, repas après les journées de travail, etc. Après, tout était fait pour recruter. Mais l'après, où le fut un calvaire, je m'explique, le management, c'était un management du roi avec sa cour. C'était un système de délation, on se vantait d'être des rois de la délation, donc par la plupart des managers. Un recadrage systématiquement fait par mail avec en copie des autres managers, on se demande à quoi ça peut servir si ce n'est qu'à détruire la personne qui est recadrée. Je me suis demandé encore si je devais pas consulter un psy, tellement je me paraissais complètement anormal par rapport à mes collègues et à mon manager. Soit du management où on voulait tout imposer et marcher sur tout ce qui résiste, ce qu'on peut appeler du despotisme. Voilà, et bien, je vous remercie, bonne soirée.
Daniel, salut, c'est Michel, je suis en train de refeuilleter le Canard enchaîné du mercredi 2 septembre 2009. Et à la page 3, en bas, à gauche, toi et ton équipe pourront retrouver un article dont on n'entend pas beaucoup parler, le bal des experts, un mélange des genres, avec un certain nombre de gens qui sont cités et qui font tous partie, avec Madame Bachelot, évidemment, du comité de lutte contre la grippe. On est devant un conflit d'intérêts parce que tous ces gens-là sont à la fois médecins, virologues, professeurs. Et le comble, ils sont tous des consultants dans les grands laboratoires, notamment le laboratoire Roche, qui est le fournisseur du fameux Tamiflu. Et ils sont assez nombreux, apparemment. Hein. Et ils touchent du pognon. Donc on est devant un conflit d'intérêts, mais surtout un scandale. Je crois qu'on se moque vraiment de notre gueule. On se fout de notre gueule. Mais ce que je trouve très curieux, c'est que les médias n'en aient pas du tout parlé. Personne ne se soit emparé de cette affaire. C'est étonnant.
C'est étonnant, merci pour tous ces messages, chers AMG. Aujourd'hui, vous allez être heureux. Voilà des semaines, sinon des mois, que vous nous demandez que nous invitions à nouveau Frédéric Lordon, le professeur Lordon, professeur évidemment entre guillemets, je le rappelle pour ceux qui seraient les nouveaux, il y a des nouveaux, j'en vois dans le fond du transistor, là-bas des nouveaux auditeurs. Frédéric Lordon est économiste, il est directeur de recherche au CNRS, et ses travaux portent sur la finance, sur le capitalisme financiarisé. Et il est très demandé, le camarade de Lordon, pour ses analyses, pour ses critiques et pour ses propositions aussi. Parce que c'est pas seulement quelqu'un qui dénonce la situation. Après tout, tout le monde le fait et tout le monde l'a fait il y a un an, souvenez-vous. Du discours de Toulon, par exemple, de notre président de la République. Souvenez-vous du G20. Et attendez, je suis sûr, le G20, vous l'attendez le prochain avec une impatience, mais vous n'en pouvez plus, parce que vous dites que, sans doute, que suite à ce G20, le monde va complètement changer, la justice va régner sur cette planète. Frédéric Lordon fait des propositions, des analyses et des propositions. Et là, sur deux jours, aujourd'hui et demain, voilà vraiment un exposé, sinon un cours, pourquoi pas appeler les choses franchement, sur la situation financière, économique, et puis donc sociale aussi, de, non pas de notre pays, mais de notre planète, d'une façon plus générale. Pourquoi tout ça ? Parce qu'au mois de mai dernier, Frédéric Lordon a publié chez Fayard un livre intitulé « La crise de trop, reconstruction d'un monde failli ». Voilà notre sujet aujourd'hui, avec cette certitude qui va nous vous rendre heureux, comme je le disais, c'est que montrer du doigt, c'est la certitude d'être du bon côté du doigt. C'est une phrase de Frédéric Lordon. Donc, puisque nous allons tous ensemble montrer du doigt, nous allons tous être jusqu'à 16 heures du bon côté du doigt, bien que peut-être certains d'entre vous, et ils nous le diront, ils ne manqueront pas de nous le dire sur le répondeur de la basse et j'y suis, se sentiront peut-être un petit peu montrés du doigt. Voilà notre programme du jour. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour, c'est Philippe Collin, porte-parole de la Confédération Paysanne. Donc, je t'appelle Daniel pour dire que nous sommes la place de la République en train de distribuer avec le Secours Populaire du lait des paysans en révolte, aux citoyens parisiens. À la population qui passe, et voilà, c'est un petit salut à tous les auditeurs de la base où j'y suis. Ciao.
Mardi 22 septembre 2009, c'est l'automne. En réalité, c'est le dernier jour de l'été, puisque, selon le calendrier de la Poste, l'automne ne commence qu'à 23h18. Enfin, quoi qu'il en soit, colchique dans les prés, c'est la fin de l'été. Il fait beau aujourd'hui. Soleil mélancolique de l'été qui s'en va. Dernière retouche. Dernier rappel. En parlant des amours de vacances, on entend parfois dire « ça n'aura duré qu'un seul été ». Parenthèse en santé. C'est avec l'arrivée de l'été, le dernier soir de printemps exactement, le samedi 20 juin dernier, qu'a commencé ma relation amoureuse avec elle. Relation amoureuse, c'est vrai, et c'est beaucoup dire, car moi seul étais, et pendant tout l'été, dans une relation amoureuse. Elle pensait encore à son amour passé. Et voilà que l'été se termine, ce qui me rend bien triste. Non pas parce qu'avec l'été se termine aussi mon amour pour elle. Non, non, vous vous trompez. Je suis triste parce que je l'aime toujours. Et j'aurais tant souhaité que ce dernier soleil d'été réchauffe nos cœurs et nos corps enlacés. J'écris cette lettre pour elle. Je ne vais pas la poster. Soi-disant qu'il y avait grève des postiers aujourd'hui. J'ai pourtant trouvé dans la boîte un avis de lettre recommandé. Encore une menace sans doute. Comme j'aurais aimé que le dernier jour de l'été, elle me déclare son amour par lettre recommandée. Il est 17h18. Encore 6 heures d'été. 6 heures pour l'aimer encore comme en été. Dis, va voir là-bas si j'y suis. Bon, je te rassure, tu ne m'y verras pas. Mais là-bas, tu trouveras ce billet d'amour enveloppé de baisers.
Salut répondeur. Laisse-moi te parler d'un sujet rébarbatif qui n'intéresse pas grand monde et qui simplement révolutionne nos vies, notre environnement, notre condition humaine de façon irréversible. Je parle des nanotechnologies. Les fidèles se souviennent que là-bas, si j'y suis, leur avait consacré une émission en juin 2006. Si vous n'avez jamais entendu ce mot, vous allez le découvrir cet automne. Le gouvernement lance une campagne de com' pour nous conditionner aux nanotechnologies dans lesquelles il investit massivement. Sarkozy vient d'annoncer 70 millions supplémentaires d'aides de l'État pour 2009. Alors quoi les nanotechnologies ? Ces technologies qui manipulent la matière vivante et inerte à l'échelle de l'atome menacent à la fois notre environnement et notre santé en balançant dans la nature des nanoparticules toxiques, notre liberté en implantant partout des mini-puces électroniques qui nous pistent à la trace, notre autonomie et nos rapports humains en transformant chaque objet, plante, animal, paysage, être humain en support électronique interconnecté. Et je vous jure que c'est vrai. Enfin, notre condition humaine, en créant un homme-machine et un monde machine, artificiel, sous commande. Bref, le nanomonde se prépare à notre insu et il y a urgence à le combattre. Pour tout savoir et tout comprendre, allez sur le site nanomonde.org. Informez-vous, faites circuler. Et surtout, ne vous laissez pas embobiner par la campagne de com qui prend la forme de réunions publiques organisées à partir d'octobre dans toute la France par la Commission nationale du débat public. Pièce et main d'œuvre qui combat le nanomonde depuis 8 ans vous invite à contester publiquement la tyrannie technologique et à organiser vos propres débats. Tous les outils, toutes les infos et même des révélations sont sur nanomonde.org. Alors, à vous de jouer.
Bonjour, c'est DG Duvar. Il nous a fait une belle rafière, Herbesson. Vers 7 heures environ, 500 miliciens, fonctionnaires de police, ont brillamment encerclé, parqué et trié 276 migrants. Quasiment tous afghans, dont 135 mineurs. Vers 14 heures, tel Napoléon Austerlitz, notre ministre de l'immigration, est venu voir le résultat du champ de bataille. Sur place, pas de grognards, mais des bulldozers détruisant tout. Le but de ce carnage ? Mais il l'a dit il y a quelques jours, c'est pour arrêter les méchants passeurs. C'est une nouvelle technique d'arrestation, ça ? On prévient quelques jours avant pour que les passeurs aient le temps de préparer leurs valises pour aller en prison ? Ils étaient environ 500 dans cette jungle, et hier 276. Les plus coupables ne seraient-ils pas partis avant ? Je suis inquiet pour tous les immigrés de France. Eric doit être aigri, et je crains que ça ne retombe sur eux. Pourquoi aigri ? Eh bien, Sylvie Brunel, qui a travaillé pendant plus de 15 ans dans l'humanitaire comme Médecins sans frontières ou Action contre la faim, et qui était Madame Besson, vient de divorcer. On voit bien qu'un ministre qui a saignos fait un doigt d'honneur aux journalistes n'est pas dans son état normal. Les Anglais n'ont pas signé les accords de Schengen. Ils laissent les 36 pays qui l'ont fait se démerder. Alors, laissons-les à notre tour se débrouiller et autorisons le passage de la Manche à tous ceux qui achètent un billet.
Notre jury continue les auditions. Qui sera le nouveau capitaliste ?
Bonjour, vous appelez comment ?
Nicolas.
Oh, t'écoutes, Nicolas.
J'y vais. Je suis scandalisé par ce licenciement chez Total. Une entreprise qui fait des bénéfices aussi exorbitants se doit de montrer l'exemple en préservant ses employés, c'est le minimum, mais surtout en faisant des efforts pour embaucher de nouveaux salariés.
Excellent. Merci. Écoute, pour moi, c'est oui. Hein. T'as la bonne rythmique, l'esprit World Company, de la pêche, de l'envie. Je veux te voir continuer avec nous. Juste une question, là, j'ai un doute. Tu vas rien faire contre Total ?
Ah bah non, on n'est pas là pour ça, hein. Tellement je kiffe le capitaliste, tellement je suis un décomplexé de l'oseille, tellement je suis Tom Cruise dans la firme.
Ok, je voulais juste être sûr qu'on soit bien raccord. Alors tu lui donnes un oui aussi ? Ouais, Nicolas, tu continues l'aventure.
Ah merci, hein.
Bonjour, installez-vous.
Salut, c'est là-bas si j'y suis. Avec Frédéric Lordon, le bon côté du doigt.
Flight number 2, arriving from New York.
Bon, évidemment, y a des émissions qui ont des experts, des spécialistes, des consultants. Et nous, on a un oracle. On a un oracle qui arrive enfin à la demande générale de nombreux auditeurs. C'est le professeur Lordon. Le voilà, il est devant nous. Il est dans votre poste.
Tout est bon dans le professeur Lordon. C'est comme dans le cochon.
Non, mais je suis sérieux. On a beaucoup d'auditeurs qui cherchent à savoir comment placer leur argent, comment s'enrichir sans peine, et qui sont très attentifs à vos critiques, cher Frédéric Lordon. Alors, par où on va commencer ? Parce que je rappelle le titre de votre livre qui s'appelle « La crise de trop, reconstruction d'un monde failli » qui est sorti au mois de mai.
Tout de même.
Et il s'est passé beaucoup de choses depuis. Alors, la première question, où en sommes-nous ?
Ah ça alors, c'est une question quasiment existentielle.
Voilà. Où en sommes-nous par rapport à la crise, bien évidemment, cette crise financière ?
Ah ben moi je fais comme tout le monde, hein. Je lis mon journal, j'écoute ma radio, etc. Et tout le monde me convainc qu'elle est terminée, c'est derrière nous, tout est reparti, hardi petit, donc il n'y a plus de problème, la question est vraiment sans objet. Alors quand même, il reste un vieux fond de doute là qui traîne au fond d'une statistique ou deux. La crise aiguë, celle de l'automne 2008, évidemment, elle est terminée. Bon.
Elle est terminée sur quel plan ? Sur le plan financier ?
Alors, sur le plan de la menace de l'effondrement apocalyptique du système financier. Alors, du point de vue de ses répercussions dans l'économie réelle, on a enregistré quelques trimestres de récession et tout le monde nous dit qu'on est en train d'en sortir. Bon. Et alors, évidemment, à la première embellie, ça pousse des hurrahs et ça crie des vivas dans tous les sens. Moi, j'aurais tendance à retenir un peu mes larmes de joie, hein, et à modérer un tout petit peu mon enthousiasme pour une raison extrêmement simple, c'est-à-dire cette crise, alors on va dire crise financière hein, en première approximation, mais avec cette réserve qu'il faudrait avoir à l'esprit en permanence que c'est pas une crise financière ou financière, c'est pas une crise exclusivement financière. Cette crise financière est la révélation ou c'est l'épiphénomène ou le symptôme d'une crise qui est en fait beaucoup plus profonde, hein, qui est une crise de la configuration présente du capitalisme. Cette crise a pour origine un excès d'endettement généralisé. C'est-à-dire la chose assez drôle hein, quand on y pense, c'est qu'on nous a bassinés pendant des années avec la dette publique qui, ma pauvre dame, allait être supportée par nos enfants. C'était vraiment terrible. Hein. Et pendant qu'on regardait du côté de la dette publique qui, à tout prendre, était alors des plus modérés, on n'observait pas qu'était en train de se former une crise de dette privée absolument monumentale. C'est la plus grosse crise de dette privée que le capitalisme ait jamais eue sur les bras. Bon. Et le malheur est que nous sommes loin d'en être sortis, pour plein de raisons. C'est-à-dire que ça a commencé avec la crise des subprimes, donc la dette immobilière des ménages les moins solvables, les plus fragiles, etc. Or, il y a toute une série d'autres dettes qui vont arriver par convoi et se fracasser dans le bilan des banques, mais à partir de 2010, 2011, etc. Alors, il y a une autre classe de dettes immobilières que les subprimes, qui s'appelle les Alt-A Mortgage, qui sont en gros une classe de dettes intermédiaire entre les dettes vraiment pourries des subprimes et les dettes, honorables, qu'on appelle prime, hein, par définition. Et qui fonctionnent, les Alt-A Mortgage fonctionnent exactement sur le même schéma que les subprimes, c'est-à-dire sur le mode de une première période avec un taux d'appel ultra copain, des tout petits pourcents à payer avec des mensualités ridicules que tout le monde croit pouvoir se permettre, et au bout d'un certain temps, ce qu'on appelle le reset, c'est-à-dire on sort de la période des taux d'appel et on revient non seulement au taux normal, mais avec l'obligation de rembourser ce qui n'avait pas été payé pendant la première période. Alors, les subprimes, ça fonctionnait sur le modèle 2 plus 28 pour un crédit immobilier de 30 ans. 2 ans copain, 28 ans à la dure. Les Alt-A Mortgage, c'est plutôt sur le mode 4 plus 26 ou 5 plus 25. Et alors, quand on regarde la démographie des crédits Alt-A Mortgage, on s'aperçoit que les gros bataillons qui vont prendre le reset dans les gencives vont débouler vers 2010, 2011, 2012. Ce qui signifie que c'est à ce moment-là que vont se produire, comme toujours au moment du reset, les défaillances massives des ménages qui, au début, payaient parce que c'était tout léger et tout agréable et qui ne pourront plus faire face à des mensualités qui vont doubler de volume d'un coup d'un seul. Bon. Ça, c'est le premier qu'on voit. Il y en a pour 1000 milliards de dollars, hein, gentiment, de Alt-A Mortgage. Alors, ça ne veut pas dire que les 1000 milliards de dollars vont se fracasser, mais ça veut dire qu'il faut s'attendre devrait enregistrer un taux de défaut assez rondelet et qui vont occasionner des pertes supplémentaires assez rondelettes également dans les bilans bancaires. Première chose. Deuxième chose, on reste dans l'immobilier, mais cette fois-ci, on change un peu de crèmerie. Non plus l'immobilier des ménages, mais l'immobilier commercial. Alors là aussi, il y a un séisme qui s'annonce et qui va être absolument gratiné. Donc il y a des dettes d'ordre de grandeur équivalentes qui ont été contractées sur l'immobilier commercial et que les entreprises ne vont pas pouvoir rembourser. Et alors là, pour le coup, la récession ne les y aide pas. Et d'une manière générale, c'est ça le vrai problème. C'est que la récession fonctionne comme une espèce d'énorme machine à produire endogènement de la mauvaise dette. C'est-à-dire, vous aviez des ménages qui étaient à peu près solvables, les narines au ras de l'eau, mais encore un petit peu au-dessus, et qui arrivaient à payer. Mais voilà, il y en a un des deux qui perd son emploi et c'est fini. Le ménage plonge. Et d'emprunteur à peu près solvable qu'il était, il tombe dans la catégorie des emprunteurs qui font défaut. Mauvaise dette en plus.
Maman, papa, les gens, moi, l'école, les filles, les études, les amis, les filles, le travail, la fille, l'amour, la vie, le MEDEF, le licenciement, les huissiers, la précarité, l'alcool, la mort. Dans cette aventure, le MEDEF sera toujours là pour vous enfoncer, parce que des pauvres, il en faut aussi. MEDEF, vraiment impopulaire.
Et puis, il n'y a pas que les mauvaises dettes des ménages, il y a les mauvaises dettes des entreprises. Alors, pas seulement celles qui sont concernées par l'immobilier commercial, mais toutes les autres. Je veux dire, il y a plein de business qui étaient des affaires honnêtes, hein, convenablement solvables, qui payaient leurs dettes à peu près correctement, et qui se prennent dans les dents moins 20, moins 30, moins 40% de chiffre d'affaires. Ah bah oui, évidemment, hein, ça change les données du problème. Alors, toutes ces entreprises, elles aussi, d'à peu près solvables qu'elles étaient, risquent de devenir insolvables ou illiquides. Et encore un paquet de mauvaises dettes supplémentaires à encaisser pour les banques. Donc moi, je ne sors pas de cette idée simple et assez rudimentaire que le système bancaire n'en a pas fini avec les dettes pourries et que, comme c'est ça la raison première de la crise, aussi bien de la crise financière que de la crise économique, on n'en est pas débarrassé. Et donc moi, mon anticipation, ça serait que, au lieu d'une reprise triomphale comme on nous l'annonce, certes, nous allons sortir de la récession, c'est-à-dire des taux de croissance négatifs, mais pour nous traîner très durablement dans un régime de croissance tout à fait mollassonne et avec par conséquent un chômage haut et voué à rester à des niveaux élevés pour très longtemps. Je veux dire, c'est-à-dire une phase de croissance cacateuse et d'emploi très dégradé pour vraiment plusieurs années.
On annonce 25 millions de chômeurs dans les pays de l'OCDE. C'est l'OCDE même qui fait cette prévision pour 2010.
Eh ben, 25 millions. C'est pas moi qui le dis, c'est des prévisionnistes assermentés. Donc voilà, ça vaut peut-être le coup de les écouter. La dernière chose, c'est qu'il faut bien voir l'alternative toute pourrie à laquelle on est confronté tout de même. Hein. Parce que dans cette affaire, quand je disais que derrière la crise financière, il y a une grosse crise économique, mais je veux dire une crise structurelle, une crise de la configuration du capitalisme, c'est une crise de sous-consommation chronique. Je veux dire, la stagnation salariale est l'effet permanent de cette configuration du capitalisme. Alors évidemment, la sous-consommation, c'est un peu embêtant. Alors au début, le capital pousse des cris de joie. Hein, ça, c'est facile à comprendre. Parce que des coûts salariaux qui baissent, ça veut dire des profits en hausse. Mais au bout d'un moment, même le capital s'aperçoit qu'il lui faut écouler sa marchandise.
C'est ça.
Et que pour l'écouler, il faut bien qu'en face, il y ait une demande solvable.
Ford avait compris ça.
Même lui, il avait compris ça. Eh bien, ses successeurs, 70 ans après, l'ont oublié. Et alors, évidemment, le problème, c'est que quand on verse des salaires au lance-pierre, la consommation s'en trouve légèrement déprimée par derrière. Et la consommation risque de rester durablement déprimée, sauf à reprendre les manœuvres acrobatiques de la finance, qui avait réussi à instituer le crédit à la consommation comme espèce de béquille permanente de la demande finale adressée aux entreprises, mais moyennant des contorsions alors absolument invraisemblables qui passaient par toutes ces innovations qu'on appelait la titrisation, la finance structurée, c'est-à-dire cela même qui s'est fracassé à partir du printemps 2007. L'alternative est donc soit same player shoot again, hein. Allez, on remet 50 centimes dans le flipper et c'est reparti. La titrisation, le soutien artificiel de la consommation droguée au crédit avec la prochaine crise de surendettement généralisé pour dans 5-10 ans. Ou bien les folies du crédit se calment, mais alors la consommation reste durablement déprimée et la croissance avec.
Notre jury continue les auditions. Qui sera le nouveau capitaliste ?
Bonjour, allez-vous ? Vous appelez comment ?
Laurence Parisot. Je dirige le MEDEF.
Très bien, on t'écoute, Laurence.
Quoi ? Qu'est-ce que j'apprends ? Total fait des bénéfices et licencie ? Ah, mais alors là, je suis effondrée, mais écœurée ! Monsieur de Margerie, vous m'aviez donné votre parole. Pendant la crise, vous deviez être irréprochable. Je suis bouleversée, anéantie. Ma vie s'effondre comme un château de cartes.
Alors là, moi c'est un grand oui, hein. Tu fais passer une émotion incroyable. J'ai pas vu ça depuis Bernard Madoff. Ça m'étonne pas que les fromages qui puent t'aient choisi comme boss, hein. Ah donc c'est lui aussi, bien sûr. Je vais te voir à Davos avec nous. On t'écoute, Jean-Pierre.
Cette affaire totale, c'est un scandale. Nicolas Sarkozy est effondré, il souffre dans sa chair, il est meurtri, il agonise. Pauvre Nicolas Sarkozy, qui s'est tant battu contre ce...
Stop ! C'est nul !
Pourquoi ?
C'est hors sujet, t'es à côté. C'est pas les gens qu'on défend, c'est le capitalisme. Bon, pour moi aussi, c'est non, hein. C'est un discours de midinette, on se croirait un concert de Julien Doré.
Est-ce que notre jury va trouver la perle rare ? Le nouveau capitaliste capable de continuer l'ancien capitalisme en faisant croire que c'est un nouveau capitalisme. Vous le saurez après cette courte pause.
Frédéric Lordon, on s'était vu il y a à peu près un an, au moment où ce crack se produisait, et là on se disait, là vraiment, alors là tout le monde va comprendre, oui. C'est tellement gros, c'est tellement énorme, la chute est... Alors nous qui essayons toujours modestement, avec du génie aussi, mais avec quand même beaucoup de modestie, de critiquer les abus du néolibéralisme, là tout d'un coup on devenait inutile, c'était énorme. Or, les réactions ont été quand même très modestes. On a eu des mouvements sociaux, un peu, en France, des grandes manifestations, des jours de grève, etc. Comment expliquer si peu de réactions ? Le plan de sauvetage est évalué à 900 milliards de dollars, c'est ça ?
Alors, la première mouture était de 700 milliards de dollars et elle a été passablement allongée par l'administration Obama. Mais les chiffres sont très incertains. Ce programme étant calaminé, on ne sait pas où il en est. Il a à peine démarré. Mais il était pour un volume qui pouvait atteindre entre 1500 et 2000 milliards de dollars. Donc, excusez voilà. Du peu. Hein.
Bon, donc, et tout ça sur des fonds publics. Et aucune contrepartie. C'est-à-dire qu'en France ou comme aux États-Unis, il n'y a eu aucune contrepartie contre ce plan de sauvetage. Enfin, c'est tellement gros, c'est tellement énorme qu'on aurait pu attendre de la part de l'opinion un étonnement, une indignation, que sais-je. Rien. Rien ou pas grand-chose.
Alors là, c'est pas une question pour économiste, hein, je veux dire. Moi, je suis comme vous, j'ai été extrêmement étonné par tout ça. C'est-à-dire que j'ai le souvenir du début de l'année 2009 où quand même la colère glougloutait dans la marmite. C'était là vraiment, c'était terrible. Et on se retrouve quelques mois plus tard, je veux dire à partir du mois d'avril ou du mois de mai, je ne comprends pas. Hein. Les gens qui étaient remontés comme des coucous suisses font un coup de déprime. Les élections européennes sont minable à tout point de vue, de la participation, du débat, et tout est oublié. Et on a l'impression que tout ça est en train de passer en contrebande.
Est-ce que ça veut dire qu'on est sur un retour à la normale ? On se souvient du discours de Nicolas Sarkozy à Toulon, contre le capitalisme. Tous vos confrères économistes de la presse, j'ai dit confrères. Hein.
Oui, c'est
qui,
bien.
Qui ont retourné leur veste à toute vitesse en se mettant à lire Marx et Keynes, etc., en disant « c'est vrai, c'est insupportable, c'est un scandale, ce capitalisme néolibéral, etc. » Où sont-ils ? Ils sont revenus dormir la veste dans l'autre sens ?
Oui, mais comme toujours, hein, ils épousent le sens du vent et ils essayent de suivre, avec aussi peu de retard que possible, les réorientations des courants dominants. Donc, lorsque la finance part en décalage, des pilotades à l'automne 2008. Évidemment, là, il ne s'agit plus d'être néolibéral. Là, franchement, c'est très mal porté. Hein. C'est tout à fait ringard et plus du tout de saison. Donc, en effet, on fait vite fait du rattrapage. On relie son Marx, on dépoussière son Keynes, etc. Et chacun y va de sa proposition. Il faut nationaliser. C'est parfait. Ça nous change énormément. Hein. On a l'impression que là, vraiment, on s'est transporté d'un monde à un autre, parallèle, sans doute. On ne s'y reconnaît plus trop, mais mine de rien, c'est pas désagréable. Et puis voilà, dès lors que la situation s'améliore, les incitations à changer radicalement, évidemment, disparaissent. J'ai le souvenir d'avoir éprouvé ce sentiment dès la deuxième quinzaine du mois d'octobre 2008. Pour la raison suivante, c'est que du 15 septembre au 15 octobre 2008, très honnêtement, on est passé près du cataclysme absolu. Je veux dire, il faut bien voir ce que c'est, hein, le risque systémique. C'est l'événement maximal dans une économie. C'est-à-dire, il y a ça et l'hyperinflation. C'est les deux catastrophes ultimes dans une économie de marché. C'est un truc qui a un pouvoir de destruction sociale inégalée en temps de paix. Il n'y a pas pire. Je vous avoue que pour la première fois de mon existence, et je ne m'attendais pas à vivre une chose pareille, j'ai eu pendant ce mois fatidique quelque chose qui était de l'ordre d'une trouille d'économistes. Mais vraiment, je veux dire la pétoche, quoi. Mmh. Et pour des raisons proprement analytiques et économiques. Et à partir du moment où les gouvernements montent au créneau, et alors là, pour le coup, ils sont montés au créneau, ils avaient conscience tout de même de l'ampleur du désastre qui s'annonçait. Et au moins, y a-t-il eu un petit peu d'effet d'apprentissage entre 1929 et aujourd'hui, c'est-à-dire à l'époque, hein, dans les années 30. Il y a une espèce de tropisme de pire. Tout ce qui pouvait être fait de pire a été fait jusqu'à ce que Roosevelt arrive, en gros. Bon, entre-temps, les gouvernements ont appris que le risque systémique, c'est vraiment la catastrophe absolue, et ils étaient prêts à mettre sur la table tout ce qu'il fallait pour l'éviter. Mais avec pour contrepartie qu'à partir du moment où on recule, fût-ce de deux pas seulement, du bord du gouffre, alors immense soupir de soulagement. Et les incitations à l'action radicale s'en trouvent évaporées quasiment et renaît immédiatement l'illusion qu'on va pouvoir s'en tirer à moindre frais. Et il ne manque pas de bons apôtres pour nourrir cette illusion, parce qu'il faut bien comprendre que les intérêts qui sont en jeu dans cette affaire, c'est-à-dire ceux de la finance privée, sont d'une puissance absolument colossale. Je veux dire, il y a une enclave, hein, qui a été aménagée par la finance privée au sein même de la société, qui est une enclave de surprofitabilité absolument exorbitante. Il faut donner quelques chiffres tout de même, hein, quand même, juste pour avoir, pour que les gens aient des repères et puissent faire des comparaisons. Le taux de rémunération normal du capital dans une économie. Mais dixit, la théorie économique la plus standard, je veux dire la moins folle dingue, c'est le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, qu'est-ce que c'est? C'est quelques pourcents. Avant la crise, les taux d'intérêt, c'était 3-4%. Vous rajoutez une petite prime de risque, parce que quand même, hein, voilà, bon, on rajoute 2-3% supplémentaires. Tout ça nous fait dans les 7-8% à tout casser. C'est ça la rémunération normale du capital. Bon. Les grandes entreprises industrielles du CAC 40, et je parle des entreprises industrielles seulement, hein, je réserve la finance pour la bonne bouche, sortent des taux de rendement de leurs capitaux propres, qu'on appelle le ROE en termes techniques, comme Return on Equity, des taux de rendement des capitaux propres qui sont communément supérieurs à 15% et parfois même au-delà de 20%. Mais ceci n'est rien en comparaison de ce qui se mijote dans la tambouille de la finance. Les départements dits d'investment banking, de banque d'investissement, où se concentrent toutes les activités de marché, crachent communément des taux de rendement des capitaux propres qui sont de l'ordre de 40% et parfois même bien davantage. Donc vous voyez l'écart abyssal entre la rémunération normale du capital, taux d'intérêt plus prime de risque, 7-8%, et ce que crache la finance de marché, 40%. Mais c'est un petit paradis qu'ils se battront jusqu'à la dernière goutte de sang pour préserver.
Après Axe Dry et Axe Body Spray, découvrez le nouveau déodorant Axe. Un nouveau procédé révolutionnaire qui est le contraire d'un antitranspirant, un super transpirant. Il agit directement sur les glandes sudoripares pour les stimuler pendant 24 heures.
Une seule pulvérisation me suffit le matin et en moins de 5 minutes. Ma chemise est trempée comme si j'avais travaillé 10 heures d'affilée.
Existe en deux parfums. Parfum crise financière.
Mesdames et messieurs les banquiers, je vous le dis clairement. Vous devez renoncer à vos primes de résultat.
Et parfum crise sociale.
êtes inquiet, et je vous comprends. Mais sachez que cette usine ne fermera pas. J'en fais le serment devant vous aujourd'hui.
Access Proof, laissez le charme agir.
Ah, on peut dire qu'il se démène, notre président. Quelle énergie!
Et c'est là qu'il faut, il faut bien voir ça. Hein. Je veux dire, il y a une économie politique de la financiarisation dont un des aspects tient à l'interpénétration, pour ne pas dire la confusion organique, des élites politiques et des élites financières. Alors, en France, c'est particulièrement gratiné. Hein. Le conseiller spécial de Nicolas Sarkozy, c'est Michel Pébrot, président non exécutif de BNP Paribas, qui n'a pas vraiment l'intention de céder quoi que ce soit sur les agréments de la finance de marché. Je veux dire, que peut-il sortir d'un cabinet élyséen qui est sous emprise d'un banquier en chef ? Je pose la question. Il y a le cas...
Sous l'emprise, pour
vous. Oui, sous l'emprise, absolument. Il y a le cas encore plus remarquable, alors celui-là, il est croustillant, de François Pérol. Alors, écoutez, vous allez voir le bestiau, la trajectoire est impressionnante. François Pérol est un énarque, inspecteur des finances, tout qui va bien, ses papiers sont en règle. Il fait directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy au ministère de l'Économie et des Finances en 2004-2005. Et il quitte le cabinet du ministère des Finances pour devenir associé gérant chez Rothschild et compagnie, où il supervise la fabrication de cet ensemble qui fait notre gloire nationale, qui s'appelle Natixis, qui est à peu près champion de France dans la compétition bouillon sur les subprimes, toutes catégories. Puis, il met sur les rails le rapprochement de la Caisse d'épargne et de la Banque Populaire, qui va s'avérer également un grand succès populaire. Il quitte Rothschild et compagnie pour prendre le poste de secrétaire général adjoint de l'Élysée, où il va piloter littéralement, en compagnie de Michel Pébrot, qui lui est externe au cabinet, il va piloter les plans de secours au système bancaire français. Et il va quitter l'Élysée, c'était cette année même, pour prendre la tête de l'ensemble Caisse d'épargne Banque Populaire, dont il a été l'ingénieur privé chez Rothschild, puis l'ingénieur public au secrétariat général adjoint de l'Élysée. Donc là, l'interpénétration est totale. Alors, c'était un nanar du commentaire éditorial et de la chronique de haut vol dans les médias de dénoncer cet état de fait comme une épouvantable idiosyncrasie française. C'est, oh là là, c'est les relations incestueuses de l'État et des entreprises. C'est l'État qui met son nez partout, toujours. C'est vraiment, si on regardait du côté des États-Unis, là où le capitalisme est pur, libre et privé. Oui, mais M. Mermet, c'est qu'on s'est aperçu qu'aux États-Unis, c'était pire encore. C'est-à-dire que dans le temple du capitalisme privé pur et tout ce que vous voulez, les patrons de Goldman Sachs, la plus grande banque d'investissement américaine, se succèdent à la tête du secrétariat au trésor, l'équivalent fonctionnel du ministère de l'économie et des finances, et pour y faire la politique de leurs intérêts passés et futurs. Alors là aussi, il faudrait citer des noms. Ça passe toujours, ça s'incarne dans des personnes, ça, dont la trajectoire est remarquable, et parce que remarquable peut être désingularisé pour en tirer des enseignements généraux. Alors par exemple, Bob Rubin. Bob Rubin a été président de Goldman Sachs dans les années 80. Et il rentre dans l'administration Clinton dans les années 90, où il va être l'un des suppôts les plus acharnés de la déréglementation des marchés de dérivés, et notamment des dérivés de crédit. Ceux-là même qui se sont écroulés à partir de 2007. Il quitte l'administration Clinton, où il a rempli son office de dérégulateur en chef, pour devenir vice-président de Citigroup, qui est l'un des mastodontes bancaires états-uniens, et qui lui aussi alors va devenir un champion hors norme des pertes sur les subprimes, et alors un abonné au plan de recapitalisation publique. Et d'ailleurs, c'est M. Rubin qui négocie avec Henry Paulson, l'un de ses successeurs, à la fois successeur en tant que président de Goldman Sachs et successeur en tant que ministre de l'économie américaine, Rubin va négocier avec Paulson le plan de sauvetage de Citigroup, moyennant quoi, une fois son travail accompli et sa mission dûment remplie, il pourra partir avec un magnifique parachute doré. Donc, la confusion des élites politiques et financières a atteint un degré tel qu'il y a quand même quelques raisons d'être pessimiste à propos de ce qui va sortir du pipeline. Je veux dire, l'audace des projets qui sont sur la table pour l'instant, quand même, a pas de quoi nous faire tomber de notre siège.
Notre jury continue les auditions. Qui sera le nouveau capitaliste ? Qui pourra expliquer que le nouveau capitalisme est mieux que l'ancien capitalisme ?
Bernard ?
On t'écoute, Bernard.
Oh, Total, tu licencies sans vergogne. Tu laisses des hommes à la rue et tu te remplis les poches. Honte à toi, Total. Si tu continues à te comporter ainsi, tu dois t'attendre au pire. Et le pire, c'est la guerre.
Ouais, pas mal. Ouais, moi, y a un truc qui me gêne. Dans ta voix ou dans le ton, y a un vibrato bizarre.
J'étais de gauche à un moment.
Quoi ? Putain, coco.
Non, mais c'est fini, j'ai arrêté. Je ne trouvais pas de travail avec ça.
Bon, ok, tu continues l'aventure, mais sache qu'on t'aura à l'œil à Davos. Hein. Salut, t'es qui ?
Je m'appelle Brice.
On t'écoute, Brice.
En tant que ministre du Travail, je suis prêt à mettre en place une loi qui interdit les licenciements.
Ah, t'es bon, toi. Rigolo. Allez, c'est bien, il en faut aussi. Tu viens avec nous à Davos.
Merci, je suis content d'être allé au bout sans rigoler.
Le jury va avoir un choix difficile à faire dans quelques semaines. De nombreux candidats sont bourrés de talent. Mais il y a aussi les inoubliables, ceux qui ont échoué au casting.
Total ?
Ah non, non, mais moi je suis pas là pour le casting. Hein. J'ai vu une queue énorme dans la rue, je pensais qu'il y avait à manger.
Et on continue avec Frédéric Lordon qui cite dans son bouquin « La crise de trop », une question posée par l'excellent magazine La Tribune qui interroge Laurence Parisot, présidente du MEDEF. Question de la Tribune. Barack Obama a décidé de fixer à 500 000 dollars la rémunération annuelle maximale des dirigeants bénéficiant d'aides publiques. Est-ce une bonne chose ? Réponse de Laurence Parisot. C'est un grand risque. C'est le risque que partent des hommes ou des femmes qui sont peut-être pour partie responsables du drame économique actuel, mais qui sont aussi les plus compétents pour mettre en place des solutions. C'était dans la Tribune le 5 février 2009. Nous continuons avec le professeur Lordon. Alors, quelle serait cette force qui serait capable d'imposer les contraintes indispensables à un véritable assainissement de tout ça ?
Alors, il y a deux questions d'abord. Il y a la question des forces pour imposer, mais ça, c'est la question qui vient par après. Puis c'est une question politique. Donc là aussi, je suis pas grand expert pour y répondre. La question préjudicielle est de savoir quoi faire. Bon, alors là, c'est évidemment un peu compliqué. Je pense, encore une fois, qu'il n'y a pas d'analyse sérieuse de la crise et des réponses à y apporter qui ne partent de ce constat. J'ai parlé de cette enclave de profitabilité aberrante dont la finance de marché a joui pendant deux décennies. Bon, c'est un privilège, alors quasiment au sens nobiliaire du terme, hein, auquel il faut mettre un terme. C'est un privilège qu'il faut fermer. Alors, pour deux raisons. La première, c'est que il est injustifiable qu'une activité aussi socialement nuisible que la finance. Alors là, je le dis vite, hein, socialement nuisible ou socialement inutile. Je le dis vite parce que je sais que je rencontre le sens commun des auditeurs de là-bas si j'y suis. Je m'accorde donc cette facilité. Mais en toute rigueur, il faudrait élaborer un peu plus. Hein. Donc le cas échéant, je peux. Hein. Mais pour faire simple et facile, il est injustifiable qu'une activité socialement nuisible à ce degré jouisse d'une surprofitabilité de ce calibre. La première raison, elle est toute politique. La deuxième raison, qui est un petit peu plus technique, c'est que ces niveaux anormaux de profit ont nécessairement pour corrélat des risques de même intensité. Alors d'abord, les risques sont méconnus, ignorés, puis déniés, mais un jour, il y a le réel fait résurgence, et en général, il le fait méchamment. Et c'est à ce moment-là que la bulle éclate. Je veux dire, c'est dans ce complexe qui lie intimement surprofit et surrisque que prennent systématiquement naissance les bulles spéculatives. Et moi, je tiens que l'objectif stratégique que doit poursuivre une refonte sérieuse des structures de la finance, c'est d'empêcher que toute bulle ne se reforme à nouveau. Et ceci pour une raison extrêmement simple. C'est que lorsqu'une bulle est formée, il est trop tard. Petits enfants, vous pouvez rentrer chez vous. C'est-à-dire, la séquence qui s'ensuit est absolument inarrêtable. C'est-à-dire, la bulle est vouée à éclater, le risque systémique à s'armer, et les pouvoirs publics se retrouvent pris en otage et sommés de venir au secours de la finance. Et c'est la raison pour laquelle, je le redis, sauver la finance, sauver les banques à l'automne 2008, était un impératif vital. Alors, c'est pas agréable à entendre, hein. C'est la raison pour laquelle j'ajoute aussitôt que sauver les banques sans contrepartie était proprement inconcevable. Et quelle est la...
Et c'est ce qui s'est passé.
Et c'est ce qui s'est passé pour l'instant. Quelle est la seule contrepartie qui soit à la hauteur du dommage que porte la finance ? C'est que plus jamais situation pareille ne se reproduise. Bon. Et alors là, visiblement, on n'en prend pas du tout le chemin. Tous les plans de re-régulation qui sont actuellement sur la planche à dessin ont pour projet implicite de limiter les conséquences de la nouvelle gamelle, mais pas d'en éviter la survenue. Alors, il y a une mesure phare qui est liée à ce qu'on appelle les ratios de capital contracycliques. Je ne rentre pas dans le détail, ce n'est pas très utile. Et d'ailleurs, notre excellente ministre Lagarde l'a redit ce matin à votre antenne même. Elle a dit un truc du genre « Ah mais la question, ce n'est pas que les banques prennent des risques, c'est que si elles en prennent, elles aient suffisamment de capital. » Ce qui veut dire en clair, on leur met un petit coussin aux fesses pour qu'elles se fassent moins mal la prochaine fois où elles tombent. Bon, c'est évidemment pas la direction qu'il faut prendre. Alors, quelle pourrait être cette direction ? Là, nécessairement, c'est un débat technique, donc il est abstrait, il est assommant, etc. Donc je rentre pas dans le détail. Je veux dire, là, de ce point de vue, peut-être l'écrit fait mieux, enfin le médium écrit est mieux que le médium parlé. Hein, donc il y a des textes que les gens qui veulent à y voir. Mais j'ai essayé juste de faire simple et d'indiquer des principes généraux. Si l'objectif est de prévenir la survenue de toute nouvelle bulle, et si cet objectif a partie liée avec la réduction et même la fermeture du privilège de profitabilité dont jouit la finance, alors je dis qu'il va falloir faire dans le brutal et le rudimentaire. Le brutal d'abord, et je l'ai indiqué tout à l'heure, parce que pour faire revenir la finance de 40% de taux de rentabilité des capitaux propres à une rémunération normale de l'ordre de 7-8%, il ne va pas falloir y aller avec le dos de la pelle. Je veux dire, c'est un privilège qu'on n'extirpera pas à la pince à épiler. Je veux dire, il va falloir y aller vraiment, il va falloir frapper fort et sévère. Rudimentaire, parce que l'urgence est de désophistiquer la finance. Par sa complexité, la finance est devenue le lieu de toutes les incompréhensions de la part même des professionnels. Les professionnels sont incapables de se débrouiller avec les produits financiers ultra complexes dont ils ont fait l'acquisition et la spéculation. Et c'est le lieu de tous les défauts de maîtrise des risques collectifs. Ma thèse est donc qu'il faut, je le dis de la manière suivante, il faut médiocriser la finance. Médiocriser, étymologiquement, ça veut dire la ramener à ce qui est moyen. Il faut ramener la finance au moyen de la profitabilité. Il faut ramener la finance au moyen de la complexité des produits, c'est-à-dire lui faire faire à nouveau des choses simples, aisément compréhensibles, bien maîtrisables, peu risquées, et par conséquent, évidemment, peu rémunératrices. Et donc, mon mot d'ordre serait, il faut que la banque et la finance redeviennent un métier terne et ennuyeux.
C'est ça.
Comme elle l'a toujours été par le passé, et comme elle n'aurait jamais dû cesser d'être. Alors, tout ceci suppose de réduire...
On fait rentrer le monstre dans la boîte.
On fait rentrer le génie dans la lampe. Alors, tout ceci suppose de réduire drastiquement la marge de manœuvre et le champ des actions autorisées qu'on laisse à la finance. Alors, est-ce qu'on demeure qualitativement dans le modèle ancien auquel on rajoute deux vis et on serre trois boulons ? Ou bien, est-ce qu'on change profondément le modèle ? Je dis qu'il faut passer du modèle de la supervision réactive au modèle de la restriction préemptive. La supervision réactive, c'est on laisse les petits poulets s'ébattre en plein air. Puis alors, de temps en temps, il y en a un qui se taille, alors on va le rattraper. Le problème, en général, c'est qu'ils se barrent tous ensemble dans un sens et qu'ils vont se jeter dans le précipice et qu'on les revoit jamais. Bon. La restriction préemptive, c'est qu'on les enferme à double tour. Et éventuellement, on leur met un peu de Lexomil dans le grain pour les tenir bien calmes et pour les désexciter. Alors, très concrètement, ça veut dire des choses comme séparer la banque commerciale de la sphère des marchés et la séparer hermétiquement, fermer un certain nombre de marchés dérivés, limiter l'accès aux marchés de produits dérivés restants, interdire ce qu'on appelle le trading pour compte propre, c'est-à-dire ces activités dans lesquelles les banques ne se contentent pas de passer les ordres de leurs clients, mais jouent avec leurs fonds propres, et en général dans des conditions incroyablement plus scabreuses et plus risquées. Ça veut dire soumettre à validation, ce qui voudra dire le plus clair du temps, à interdiction, la plupart des innovations financières qui sortent des cerveaux géniaux des ingénieurs de la finance, etc. etc. Donc là, je renvoie à tout un tas de mesures techniques qu'on ne peut pas aborder maintenant, mais il y a des choses qui sont tout de même concevables, et dont on ne prend absolument pas le chemin, hein.
La semaine prochaine, dans la nouvelle star capitaliste, vous découvrirez d'autres grands moments d'émotion.
Qu'est-ce que tu vas nous faire cette fois ?
Un classique que j'ai fait aux Français, Renault.
Renault ? Mistral gagnant, le gauchiste, là ?
Non, Renault, les voitures.
Ah, bon, vas-y, on t'écoute.
Mes chers compatriotes, je vous promets que cette aide à Renault et Peugeot, une aide de 6 milliards d'euros, ne sera pas accordée sans contrepartie. Ils n'auront ni le droit de licencier, ni le droit de délocaliser.
Non, mais c'est scandaleux ! Tu peux pas obliger une petite entreprise.
Non, mais c'est pas vrai ! L'Europe me l'a interdit, ils font ce qu'ils veulent, Renault.
Oh putain, tu m'as bluffé, hein ? J'y ai cru. Ouais, moi aussi. Ah, je peux pas m'avancer, mais à mon avis, toi, tu seras minimum en finale.
La nouvelle star capitaliste. Chaque année, le système reste le même, mais les candidats jouent de mieux en mieux.
Si je pouvais devenir un jour grand économiste, comme Monsieur Jacques Delors ou Monsieur Raymond Barre, je chercherai la solution pour stopper cette crise. Vraiment, mes amis, mais je n'y peux rien.
Conjoncture, conjoncture, crise économique, c'est la sécheresse des banques. Conjoncture, conjoncture, crise économique, c'est la sécheresse des banques.
Toutes les radiodiffusions du monde entier, dans tous les discours des politiciens, tout pays confondu, ce mot revient, ce mot revient. Les patrons ne savent plus où mettre leur tête. Il y a des milliers de chômeurs dans toutes les villes du monde. Même les commerçants n'arrivent plus à vendre.
Conjoncture, conjoncture, crise économique,
toutes les conférences budgétaires et monétaires, et dans tous les discours de la politique actuelle, même la Banque mondiale déplore cette crise.
Conjoncture, conjoncture, crise économique, c'est la sécheresse des banques. Conjoncture, conjoncture, crise économique, c'est la sécheresse des banques.
Allons danser, allons boire, allons nous amuser, mon ami. Viens, ma chérie, on sera bien tous les deux. Mais ne compte surtout pas sur mon portefeuille, mon ami, car il est vide à cause de la conjoncture. Aïe, aïe, aïe.
Conjoncture, conjoncture, crise économique, c'est la sécheresse des banques. Conjoncture, conjoncture, crise économique, c'est la sécheresse des banques. Conjoncture, conjoncture, crise économique, c'est la sécheresse des banques.
Demain, deuxième partie de cet entretien avec Frédéric Lordon. Je rappelle le titre de son bouquin « La crise de trop » paru chez aux éditions Fayard. Merci à Frédéric Lordon. Et puis je rappelle aujourd'hui le premier numéro en kiosque de Bakchich, le journal en ligne, sort aujourd'hui même en kiosque. Et c'est un événement. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission et faire des commentaires. Vous pouvez également la réécouter à partir de demain sur là-bas.org, là-bas.org. Je pense que ça mérite d'être réécouté. Demain, ce sera la seconde partie. À la technique aujourd'hui, Alain Arnstam et Guillaume Lacroux, Koyen Guyen et Raphaël Moutard, j'ai réalisé cette émission modeste et géniale. Agnès Lebot nous assiste, heureusement, et Catherine Pinto attend vos messages au répondeur de là-bas si j'y suis. Et puis, continuez de nous adresser des témoignages au sujet de France Télécom. Nous préparons une émission, ou plusieurs, on va voir, sur sur ce sujet, on reçoit pas mal de contacts, de collaborateurs de France Télécom qui souhaitent témoigner. Le numéro du répondeur, vous le connaissez, c'est le 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Réclame.